Salut, bienvenue en Terre Vague.
Bienvenue en Terre Vague.
Oui, bonjour.
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 Alors, on est plein de gens dans le studio aujourd'hui, on n'a jamais été autant.
Voilà.
Alors, vous nous écoutez, il est dimanche 16h, mais pour nous, il n'est pas du tout dimanche 16h, puisque nous ne sommes pas en direct.
Voilà. Et aujourd'hui, on voulait parler de Calais, l'actualité qu'il y avait à Calais ces temps-ci. Là.
On continue, on avait déjà fait deux émissions dessus, sauf que depuis, il s'est passé plein de choses, et ça nous tenait un peu à cœur de revenir un peu sur les dernières actualités qui ont lieu dans cette ville par rapport aux migrants, aux personnes qui les soutiennent et à toute cette bande de un peu nouveaux fachos là
qui investissent la ville,
qui investissent la ville,
le champ politique comme on pourrait dire.
C'est ça. Peut-être on peut revenir vite fait sur ce qu'on a dit les deux dernières émissions. On avait fait un petit tour de l'état des lieux de qu'est-ce qui se passe là-bas à Calais et pourquoi il y a tant de migrants qui arrivent.
Ouais, qu'est-ce qu'ils viennent y faire, pourquoi ils passent par là, pourquoi ils veulent aller en Angleterre, etc. etc.
Ouais, exactement.
Quelle personne se trouve là-bas en ce moment, quelle personne, enfin quel type de population, je sais pas si on peut parler comme ça, c'est un peu étrange, sont passés par Calais depuis combien de temps, voilà. Ouais.
Donc évidemment, c'est que c'est un goulot d'étranglement pour aller vers l'Angleterre. Les gens arrivent dans ce lieu-là pour essayer de passer de l'autre côté de la Manche. Ça fait que ça donne une situation dans la ville assez dramatique, puisqu'il y a vraiment beaucoup de gens par rapport à la quantité de même par rapport à la taille de la ville, quoi. On estime à peu près à 500 personnes, c'est ça, le nombre de gens qui sont considérés comme migrants.
Il y a beaucoup plus de bâtiments vides, en fait.
Oui, aussi, ça, on reviendra dessus aussi, parce qu'il y a des chiffres qui sont arrivés dans ces derniers temps de nombre de bâtiments vides à Calais. Sinon, qu'est-ce qu'on racontait d'autre?
On parlait de quoi? On parlait un peu justement de la composante fasciste de Calais, enfin en tout cas de comment, depuis quelques mois, il y avait un renouveau un peu d'une espèce d'organisation fasciste là, qui s'appelle Sauvons Calais. Voilà, on essayait de faire un peu la présentation de ces gens-là, de qu'est-ce qu'ils foutaient là, comment ils s'organisaient, pourquoi ils étaient nés il y a quelques temps par rapport à l'UMP, à la mairie UMP qui appelait à la délation, enfin, etc. Voilà, on essayait de traiter un peu tout ça.
Et depuis, ils ont encore fait des leurs. On reviendra aussi sur eux parce qu'ils appellent aussi à une manif bientôt en avril.
Voilà, les deux émissions dernières donc, étaient consacrées un peu à tout ça, à défricher la ville, les enjeux de la ville, etc. Et puis là, aujourd'hui, on voulait surtout parler de ce qui s'y passait maintenant, enfin, ou en tout cas de ce qui s'y était passé les dernières semaines. Voilà, depuis la contre-attaque un peu des no-borders jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Ouais, les no-borders, un peu cette bande de gens là à Calais aussi qui plutôt viennent en soutien aux migrants, qui sont pour pas mal d'entre eux des gens qui viennent des pays alentours là, Angleterre, Belgique, Luxembourg, enfin Hollande, et puis quelques Français aussi là qui traînent parmi eux.
Et certains Calaisiens quoi.
Et certains Calaisiens, mais pas non plus très très nombreux, qui font qu'il y a tout le temps quelques personnes qui se relaient en soutien, alors sur différents aspects, que ce soit plus des distributs de bouffe ou de l'hébergement, trouver des maisons, ou du soutien politique quand il y a des luttes qui se mettent en place avec les migrants, notamment là récemment quand il y a eu une occupation d'une passerelle d'embarquement là, qui a permis aux migrants de gagner un espace dans la ville, quoi, dans une ville un peu étrange. Je pense qu'on va revenir causer un peu de cette ville. Parce qu'il y a des gens qui sont autour des micros là, qui sont passés par là-bas et qui avaient un peu envie d'en dire deux mots, quoi. Et ils ont occupé une passerelle qui leur a permis de gagner une place sur un parking où ils ont pu établir un campement de fortune, quoi, avec des dizaines et des dizaines de tentes. Il y a plus, peut-être 100-150 personnes qui vivent là en plein centre de Calais. Alors c'est presque une petite victoire, même si ça reste une situation ultra précaire où les gens sont sous des bâches, sous la pluie, parce que c'est le climat du Nord et qu'il est bien pourri, mais que le simple fait d'être en ville, en fait, c'est une victoire, parce que c'est près des lieux de passage, quoi. Et voilà, donc il y a toute cette petite bande de gens là, no border, là, sans frontières, qui s'auto-dénominent comme ça là, et qui traînent un peu dans le coin pour filer des coups de main, quoi.
Oui, donc les no-borders, c'est un mouvement. On était venu dessus aussi au cours des dernières émissions. Une sorte de grand collectif international qui lutte contre les frontières et qui aussi organise régulièrement des campements,
des camps.
Oui, des camps, voilà, c'est ça.
Des camps. Pas seulement à Calais.
Enfin, et pas seulement à Calais,
il y en a
évidemment.
Un peu partout dans tous les lieux importants en Europe où il y a des histoires de migration et de frontières, des lieux de passage, quoi.
Alors des frontières qui sont des frontières fragiles, on disait. Les plus forts.
Ouais.
Ou dans des campements dans des endroits assez importants.
Ouais. Le dernier, c'était à Rotterdam. Ouais, c'est ça. Donc aussi Rotterdam, un grand lieu de passage de migration.
Ouais, des grands bateaux de prison.
Et un bateau, c'est une prison là-bas ?
Oui, ouais, c'est les gens qui sont à centre de rétention sont sous les bateaux, en fait. Ils sont dans les cages, sous les bateaux.
De quoi on voulait parler ? Alors, par quoi on commence ? Par quel bout on déroule cette pelote de laine ? Cette pelote de barbelé, je sais pas.
Ouais, c'est de barbelé plutôt, ouais. Alors, il y avait aussi des communiqués qui sont sortis ces dernières semaines, qui émanent des gens qu'on disait les no-borders et les soutiens des migrants qui dénommaient Calais comme une ville fantôme à cause du fait que beaucoup de lieux là-bas, de maisons, d'entrepôts sont vides. Et ces textes sont assez fous, quoi, parce que ça décrit une balade en ville et à quasiment toutes les rues, ils décrivent une sorte de cette espèce de désolation un peu, où il y a des parpaings partout, toutes les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés. Est-ce que ça se ressent quand on y est là-bas ?
Bah ouais, un peu, enfin, ça se voit que c'est vide, et en fait ça donne, moi j'ai l'impression que ça donne un peu un côté petit village de campagne, en fait, où il y a très peu de vie à part dans les cafés du coin, sauf qu'en fait c'est une grande ville, quoi. Ouais. Sauf que, enfin, ça donne un peu cette impression de petites bourgades où il s'y passe pas grand chose et où les gens
ouais c'est vrai qu'il y a clairement cet aspect là de petites villes tranquilles un peu là coincées un peu entre au nord la mer et au sud une vaste plaine agricole maraîchère et avec des terres cultivées quoi mais où il se passe pas grand chose, on a l'impression, mais quand même pris aussi d'une façon assez paradoxale dans un espèce de flot permanent là de flux de passage de marchandises et d'hommes en fait. C'est quand même aussi ceinturé par des énormes autoroutes rocades avec un trafic routier incessant permanent, un énorme port quoi où il y a des ferries, des allées et venues de ferries en permanence qu'on voit partir vers l'Angleterre qui est quasiment, enfin qui est les jours où il fait beau qu'on voit là à quelques centaines de mètres, enfin il y a quelques kilomètres je crois entre la France et l'Angleterre à cet endroit-là.
Le port il est dans la ville elle-même, alors, en plein centre-ville.
Ouais, le port il est au nord-est de la ville.
5 minutes du centre-ville.
Ouais, c'est ça quoi, et on voit, clairement tous les camions chargés là qui passent là. Dans ce goulot d'étranglement pour les hommes et les migrants, mais aussi pour les marchandises, quoi. Et les installations pour l'Eurotunnel aussi, qui sont au sud de la ville, qui fait qu'en fait, il y a un flux permanent de gens. Mais paradoxalement, c'est vrai que la ville paraît assez morte, ou en tout cas, on voit pas une espèce d'activité permanente au cœur de la ville, quoi. C'est plus autour, au niveau du port, des axes routiers, et puis aussi un peu des gens quand même qui naviguent, mais qui se cachent plus ou moins pour certains, pour ceux qui essaient de passer. Mais ouais, y a cette petite aire de bourgade tranquille, un peu délaissée, où plein de maisons sont vides aussi. Quoi.
Ouais, bien protégées. Il y a plein de CRS qui se baladent aussi.
Ça, c'est une présence qui est très forte dans la ville, l'occupation policière.
Ça se voit dans certains endroits. Et ça se voit. Y a des CRS en permanence qui tournent.
Ouais, dans les effets, ouais, y a des effectifs policiers clairement supérieurs à ceux d'une ville de. Enfin, là, il y a 130 000 habitants à Calais. Je crois qu'il y a deux compagnies de CRS supplémentaires.
72 000 habitants à Calais.
Ouais, mais avec les alentours, c'est
130 000. Avec l'aire urbaine autour, quoi. Mais il y a deux compagnies de CRS supplémentaires, la police aux frontières, la PAF, là.
Ouais, qui sont 500 dans le département.
Ouais, voilà. Alors que, par exemple, dans une ville comme Dijon, il n'y en a pas, tant mieux, on va dire, mais ça donne un peu une idée. Voilà. Il y a la police municipale qui tourne, les nationaux, ce qui fait qu'en fait, une balade dans Calais, ça se résume quand même clairement à au minimum croiser une petite dizaine de voitures de flics assez facilement quoi. Mmh. Et puis à avoir clairement des gens se faire contrôler dans la rue. Alors plus ils sont typés, on va dire, plus ils auront de chance, on a l'impression de se faire contrôler. Une balade sur la plage, t'es sur la plage et à quelques centaines de mètres au loin, tu vois un camion de CRS puis qui filtre un peu les gens qui passent, qui arrivent à la plage, qui regardent, qui contrôlent. Et ouais, ça donne vraiment une ambiance à la fois glauque, en plus prise aussi dans un espèce de contexte économique pas facile, je pense, avec un contexte social clairement un peu assez appauvri, paupérisé, quoi, où il y a plein de gens qui, du coup, aussi, se laissent peut-être un peu, des fois, prendre dans une logique de haine de l'autre, du fait de, bah, des discours aussi, qui depuis peu, là, notamment avec ce collectif de Saumon-Calais, ressurgissent un peu de façon dégueulasse, quoi.
Ouais, au-delà d'être une ville vide et tout ça, ça donne aussi l'impression, et c'est le cas, d'être une ville super pauvre, avec une population qui est pauvre et qui, justement, dans ces climats-là, c'est là où les discours fascisants, ils ont le plus de pouvoir, parce que c'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute des migrants s'il y a des problèmes économiques, etc. Et du coup c'est un peu ce truc-là qui plane dans la ville, et ça se sent, quoi.
Mais ça se sent pas, la ville pauvre. Enfin, aujourd'hui, oui, mais en fait, non, ça sent aussi quand même la ville qui était riche, quoi. Enfin, ou en tout cas, qui était une ville un peu de prestige. Quand tu vois la mairie de Saumon-Calais, c'est un peu tard.
De Calais. ils n'y sont pas encore. Ils n'ont pas présenté de liste, je crois.
Mais quand tu vois la mairie de Calais, en fait, en vrai, le beffroi, là, parce que c'est un peu les particularités du Nord, là, d'avoir des mairies avec une espèce de tour comme ça. Le beffroi, il est somptueux, je crois. À Lille, il n'a pas cette gueule-là, le beffroi.
J'ai lu que c'était une des 5 villes en France qui avait le droit d'avoir un drapeau. Ouais, Calais a son propre drapeau, et donc, ouais. Saumon-Calais en sont très, très fiers. Ouais.
Mais en fait, ça sent la ville qui est un peu, il y a, je pense, 40 ans, était une ville un peu touristique, c'est-à-dire où il y avait des gens qui, je pense, venaient s'y balader. Il y a une statue de Rodin, là, qui est en plein cœur de la ville, devant la mairie, là, la statue, c'est Les Bourgeois, et je pense qu'effectivement...
Ah ouais,
ouais. Mais je pense qu'effectivement, ça ressemble... Ça véhiculait ce genre de population qui venait sur la côte, à Calais, un peu, voir l'Angleterre se balader, etc. Et ça sent ça, quoi. Passer peut-être aussi de l'autre côté de l'Angleterre.
Mais tout défraîchi, et...
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 20% de logements vides, ça fait un peu ville fantôme en
10,
carton,
10.
Là. 10 C'est sûr.
Pas plus.
Ah, il me semble.
Bon, en tout cas, il y a plein de bâtiments.
Il y en a trop.
Non, il y en a vraiment juste ce qu'il faut pour squatter toute la ville. Mais c'était juste pour contrebalancer un peu. Ça sent pas la ville comme, je sais pas, comme
Dijon,
comme Châlons-en-Champagne, qui a jamais été. Enfin, tu vois, qui est une ville un peu pourrie. Bon, je dis Châlons-en-Champagne, je connais pas du tout, mais non, je veux dire, ça sent pas la ville où il y a jamais rien eu, où c'est des pauvres cultos, et plutôt ça sent un peu la ville où il y avait des bourgeois à un moment, où il y avait de la thune et tout ça, mais que ça se casse la gueule, effectivement. Et je pense que c'est en ça où le fascisme s'implante un peu mieux, enfin plus facilement, c'est que c'était mieux avant, quoi, et que on a perdu.
Et ça peut pas être de notre faute, c'est forcément la faute des gens qui viennent de l'extérieur, quoi. Ça, c'est vraiment le fond du discours de Saumon-Calais et de toutes ces bandes de raclures là, qui fait vraiment son beurre sur ce qui se passe dans leur ville.
Si on parle un peu de Saumon-Calais, nous, on a eu une expérience à quelques-uns de rencontrer un gars de Saumon-Calais et avec qui on a parlé pendant une heure et demie. Et en fait, pour le coup, ils ont un discours super pauvre, quoi, en argument, ils se contredisent tout le temps. Et c'est assez étrange comment ils arrivent à avoir en même temps un espèce de soutien où ils sont quand même assez nombreux et tout ça, et en même temps comment leur discours il tient à rien du tout, quoi.
Ouais, moi je suis pas complètement d'accord, parce qu'on a discuté avec lui, enfin moi j'ai discuté aussi avec lui, avec ce type là qui s'appelait Bruno, un type de Saumon-Calais,
et
qui habite au... Non, en tout cas qui disait que... Qui avait des arguments, un décryptage un peu social de la situation, quoi, qui était là, ben voilà, en fait, on manque de fric, le fric il est piqué par les banques, enfin, je sais pas, un espèce de discours socialiste, on pourrait dire.
Qui contredisait deux phrases plus tard, quoi.
Bah, lui disait, il faut effectivement plus travailler, il faut plus gagner d'argent pour. Enfin, voilà, effectivement,
Il faut donner les sous aux SDF français et pas aux SDF.
Mais tu vois, ça allait plus loin que ça, c'est qu'il disait que, en fait, tu passais ta vie à travailler et que du coup, t'étais esclave de ce système pour enrichir un truc capitaliste et tu vois, il développait un truc comme ça, et juste après il disait, oui mais en fait les migrants ils ont qu'à travailler et quand on leur disait mais qu'ils ont envie de travailler et que machin, tu vois, il disait oui mais quand on veut travailler on trouve du travail, et alors que 10 minutes avant on disait qu'il y avait plus de travail, que les gens galéraient, que c'était la misère et tout ça, mais du coup il y avait plein d'incohérences comme ça dans son discours qui faisait que bon, c'était un peu usant de parler avec lui.
Ouais, en même temps, je pense qu'il fait que c'est aussi des discours qui peuvent séduire plein de gens qui n'ont pas de thunes, et des gens qui triment, et des gens qui... voilà, c'est l'espèce de socialisme de droite, là, qui, à mon avis, séduit plein de gens, quoi.
Après, il y a plein de gens qui restent là juste pour un peu de temps pour pouvoir voyager, pour pouvoir continuer son voyage. Du coup, ça tient pas du tout sens d'attaquer ces gens Bon, pour moi, c'est juste, plus, juste la haine, en fait.
Oui, c'est sûr.
Parce qu'il n'y a pas du tout, de, même de point de vue de droite, il n'y a, y a pas du tout du sens d'empêcher ces gens de continuer son voyage tranquille. Quoi. Il les attaquait, il les lançait des cailloux sous la tête, il essayait de brûler la maison. Ça ne t'aime pas du tout.
Oui, parce qu'une une des grosses actions, on va dire, qui a été faite en tout cas par les soutiens, enfin, du coup, il y a des liens avec Sauvons Calais, c'est ce qui s'est passé à Coulogne. Donc Coulogne, qui est une toute petite bourgade collée à Calais, dans laquelle, il me semble que c'était juste deux personnes en plus qui avaient ouvert une maison au début.
Ouais, c'est plusieurs.
Y avait... La particularité, que c'était pas du tout, en tout cas officiellement, publiquement, c'était pas un squat. Pour les migrants. Voilà, c'est des personnes qui ont ouvert cet endroit-là pour eux, quoi, qui se disaient SDF français.
En plus, des bons français.
Qui jouaient sur le discours justement.
Enfin, européen, en fait.
Ouais.
Mais elle était française et lui, non.
Et donc, ils se sont fait harceler pendant, une semaine et demie, 10 jours, 2 semaines, quoi.
Du coup, le système de Sauvons Calais, c'est qu'ils ont une page Facebook et que s'il y a une personne de Sauvons Calais qui voit qu'il y a une maison qui s'ouvre avec ou des migrants ou des no-borders, ils le signalent sur Sauvons Calais et il y a une mobilisation de Sauvons Calais pour faire expulser cette maison. Et en fait, là, un des voisins, c'était Bruno, en fait, qui a mis sur la page de Sauvons Calais que les gens sont venus se mobiliser pendant une semaine et demie devant la maison.
Ouais.
Donc, caillassé, cocktail Molotov qui n'ont pas réussi à exploser.
Oui, ouais, il y a donc eu cette ouverture d'une maison là, pour des gens qui se déclaraient SDF français, là, qui a très rapidement, en fait, où très rapidement, les gens de Sauvons Calais se sont mobilisés en masse devant la maison. Dans, je crois que le lendemain de l'ouverture de la maison officielle, il y avait au début 20, 30 personnes, puis jusqu'à 70, enfin les 70 personnes rassemblées avec pas mal de skinheads, quoi. Et là, enfin clairement, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point l'appel à délation de Natacha Bouchard, la maire de Calais, a dénoncé tous les gens qui pouvaient être suspects dans des maisons vides, enfin bon, clairement tous les gens qui essaient de se trouver des toits, quoi. Jusqu'à quel point en fait cet appel à délation a fonctionné et a, en fait Sauvons Calais à ce moment-là semble-t-il, s'est senti les coups des franges, clairement, à se dire bon, bah, en fait, la maire, en fait, nous dit, nous donne en tout cas la possibilité de faire une partie de la justice nous-mêmes, en tout cas en prévenant la police, mais peut-être pourquoi pas on irait plus loin. Et là, ils se sont rassemblés devant la maison, et pendant une semaine, facilement, il y a eu caillassage intensif, quoi. On a une photo là sous les yeux encore de la maison, on voit le toit de la maison. Il est complètement destroy, quoi.
Ils ont brûlé une grange.
Il y a des trous, quoi.
Voilà,
une grange entière qui a brûlé, des trucs comme ça.
Ouais, moi je voulais dire qu'il y avait peut-être aussi un truc d'enjeu de territoire parce qu'il semblerait que c'était une maison qui était un peu occupée par les gamins du quartier qui la squattaient avant les squatteurs et du coup que la mobilisation aussi forte et la destruction de ce truc-là.
Voilà. Parce que les gamins du quartier, en fait, Coulogne, il semblerait que ça soit aussi un peu le fief des fachos et des gens de Sauvons Calais. Les gamins du quartier étaient finalement les frères ou les potes des gens de Sauvons Calais. Enfin voilà, les gens sont un peu mal tombés en ouvrant cette maison-là.
Ouais, et du coup, là aussi, dans ce contexte un peu d'appel un peu à formation de vigilance là, de citoyens, enfin de citoyens flics là, il y a clairement aussi une réaction assez étrange. Moi, j'ai repris le journal parce que. J'avais quand même complètement halluciné en lisant la déclaration du sous-préfet quelques jours après là, ces caillassages, des cocktails Molotov lancés sur la maison, une grange qui brûle, qui dit que... Alors le journal l'interview et lui demande « Et interdire les manifestations devant la maison ?»« Interdire ?» répond-il. « Au nom de quoi ? Nous ne pouvons interdire à ces personnes de manifester devant la ferme de la rue Dumont que si certaines personnes causent un grave trouble à l'ordre public. » Donc bon... Les cocktails Molotov, les caillassages, les gens qui se font agresser, c'est pas des troubles à l'ordre public. On n'a qu'à les laisser manifester devant et pas intervenir. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il faut qu'on fasse appel aux flics, mais dans ces moments-là, quand même, on se pose la question jusqu'à quel point ils sont prêts à légitimer des actions de violence envers, envers les personnes.
Sachant que les flics étaient présents sur place pendant un temps et qu'en fait, ils étaient juste le dos tourné pendant que les gens caillassaient, quoi.
Oui, mais ça, c'est hyper...
Ouais, c'est, mais je veux dire, en fait, ils ont été... ils ont quand même dit, oula, ça peut être dangereux, ça peut peut-être partir en sucette, alors du coup, on va quand même mettre une patrouille, parce que c'était tendu et tout ça, et en fait, au final, bon, ça ne servait à rien qu'il y ait une patrouille.
Mais on sait bien que les flics qui sont du côté des fascistes. C'est pour...
Mais peut-être pas les gens qui nous écoutent.
Il y avait des gens aussi de ces fois arrêtés, non, finalement, que c'était bourré et ouais. Essayer d'entrer à la maison.
Mais ils se sont fait juste arrêter, ouais, puis relâcher quelques heures
dégrisement,
après.
Dégrisement, quoi. Ouais, c'est ça. Juste cellule pour être. Mais en fait, ce truc-là, c'est... ce qui est pas mal, c'est que ça s'est à un moment retourné contre eux, quoi. C'est que du coup, ça a attiré l'attention sur ce qu'ils faisaient et sur un peu la violence qui mettaient en place là pour faire évacuer cette maison. Et du coup, les médias étaient un peu à les traquer. Et en même temps, il y avait plein de gens qui étaient à la base dans le collectif Sauvons Calais qui disaient « Oula, ça va beaucoup trop loin pour nous et on se désolidarise complètement de ça ». Et bah là, le journal qu'on a sur place, c'est la une, c'est ça parle de Kevin, donc le un peu Kevin la tête de
celui qui a créé la page Facebook au début, quoi.
Un peu la tête de Sauvons Calais, et du coup, en fait, on le voit avec une croix gammée tatouée sur le pectoral à l'American History, c'est un peu quoi.
Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé à Coulogne, ce petit village à côté de Calais. Ça a donc permis aussi aux gens qui sont en soutien au squat de pouvoir se retrouver et de lancer une nouvelle dynamique sur la ville pour essayer d'ouvrir des nouvelles maisons. Car ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Calais, la police, la mairie et les bailleurs sociaux en général ne s'embarrassent pas trop de leur justice. Il y a eu historiquement à Calais plusieurs fois des maisons qui ont été ouvertes et qui ont été expulsées illégalement sans qu'il y ait de jugement prononcé par un tribunal compétent. Et il y a eu cette campagne. C'était quoi ? C'était une semaine, 10 jours après Coulogne, quoi. C'était pas très longtemps après. pour ouvrir quatre maisons, quatre logements vacants d'un coup.
Nous, on a subi ça un petit peu comme ça via des échos qu'on a eu. Et c'est sûr que c'était un peu une bouffée d'oxygène salutaire après cette semaine complètement déprimante pour les gens à Calais et de Calais de voir à quel point, en fait, en une semaine, il y avait un regroupement assez fort, assez conséquent de fascistes là qui menaçaient. Qui menaçait cette maison. Et quelques jours après, alors à la fois en réaction, à la fois j'imagine qu'il y a eu des préparatifs préliminaires avant, mais il y a eu 5 maisons la même journée qui ont été ouvertes. Et étonnamment, quand même, un soutien dans les médias locaux, qui sont pourtant pas des médias dans lesquels on aurait forcément confiance, mais qui ont quand même, suite aux agressions, aux fortes agressions de la semaine à Coulogne, là, ont quand même... une couverture médiatique pas trop pourrie.
Là, j'ai sous les yeux un article de Delphine Quicksor qui s'appelle 4 squats au même moment pour dénoncer le logement vide à Calais, et qui est assez fou, quoi. On pourrait croire que c'est des soutiens qui l'ont écrit, mais en fait, non, c'est vraiment une journaliste de Nord Littoral, quoi. Ça a été publié là, sur Nord Littoral.
En fait, ils étaient super réactifs, les journalistes. Je pense qu'avec ce truc de Sauvons Calais, de Coulogne, etc. Il y avait un truc où y avait un article tous les jours sur un truc de squat, que 2 jours avant l'ouverture de cette maison, il y avait eu une réunion publique organisée par des assos en soutien aux migrants qui ont invité tous les candidats aux municipales à parler de qu'est-ce qui se passe par rapport aux migrants à Calais. Et en fait, de cette réunion publique, il s'est sorti des trucs du style en fait, il n'y a que les no-borders qui assurent et qui aident ces personnes-là, en fait, dans la ville. Et en fait, s'il n'y avait pas les no-borders, ça ne le ferait pas du tout. Ça serait vraiment l'horreur.
Alors qu'habituellement, quand même, il y a une image assez négative, notamment véhiculée par les médias, des no-borders qui ne sont quand même pas vus comme de bons citoyens. Qui respecteraient toutes les lois, tout simplement parce qu'ils se réapproprient des espaces comme notamment des maisons où ils luttent à côté avec les migrants.
Ouais, mais justement, je pense que l'image des fascistes est débordée, la mauvaise image des fascistes est juste débordée, la mauvaise image des non-borders. Ils sont un peu focalisés là-bas, ils ont trouvé le lien, que c'était vraiment beaucoup plus loin que le citoyennisme. Et du coup, je pense que ça a vraiment servi un peu de calmer de force de répression, au moins.
Et ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que dans quelques mois, les no-borders ne seront pas de nouveau un peu pris en grippe, ou en tout cas qu'ils n'auront pas une couverture médiatique aussi sympa. Mais là, c'était un peu aussi, je pense, une réaction médiatique aux événements qu'il y avait eu, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était quand même... chouette d'apprendre qu'il y avait ces maisons qui s'ouvraient et que ça allait pouvoir permettre de loger pas mal de gens, et que mine de rien, le fait qu'il y ait cette action coordonnée et une couverture médiatique et pas mal de monde dans la ville, ça a aussi permis à ce que les flics se sentent un peu moins sûrs d'eux et respectent un peu plus les procédures légales qui protègent les squats en France, quoi.
Sauf qu'ils sont expulsés directement des bâtiments en manière illégale. Mais
pour le coup, il y avait déjà un article sur Nord Littoral qui était paru sur l'ouverture de la maison, parce que les flics étaient venus le matin, les plusieurs journalistes étaient venus le matin dans cette maison. Et du coup, c'était assez... je pense que ça leur a fait un mauvais coup de pub pour les flics et la mairie, là, parce que, en fait, ils ont expulsé... C'est la première maison qu'ils ont expulsée, alors que c'était la seule qui était connue déjà médiatiquement, en fait. Et en fait, cette maison-là, elle fait un peu débat... parce qu'elle a été réouverte, réexpulsée, réouverte, et là je sais pas où elle en est, si elle a pas été réexpulsée ou je sais pas.
Mais sachant qu'au moins toutes les autres pour l'instant tiennent le coup, et les gens s'organisent pour faire en sorte de réparer. Il y a des appels à du matos. Récemment, c'est ça, il y a des gens qui veulent monter un atelier vélo pour pouvoir que les migrants, les soutiens puissent se déplacer plus facilement dans la ville. Ça s'organise tranquillement, la vie dans les maisons là-bas, quoi.
Au niveau légal, ils sont déjà des process, mais pour les raisons que c'était vraiment super rapide qu'ils ont réagi au niveau légal, des avocats ont réussi d'avoir le délai. Du coup, après le 1er avril, il y a un process qui suit pour toutes les 3 maisons qui restent.
Ouais. Et dans la lignée des procès aussi à Calais, pendant l'hiver, il y avait une autre maison qui avait été ouverte et qui avait été expulsée illégalement. Sauf que là, les gens qui se sont fait expulser de cette maison ont décidé d'attaquer en justice pour expulsion illégale. Et là, le jugement est passé mais n'est pas été rendu. Et en gros, c'est l'État qui renvoie la balle à l'OPH, qui est le bailleur social. Propriétaire du lieu, et l'OPH fait pareil envers l'État, genre c'est pas moi, non vas-y c'est toi, c'est pas moi, en gros pour savoir qui a la responsabilité de cette expulsion illégale.
Ce qui est quand même stratégiquement intéressant de voir comment des gens arrivent à s'organiser aussi après une expulsion pour essayer de contrer un peu les habitudes des flics là-bas, en tout cas d'aller au-delà des procédures légales sur des expulsions de squad. Quoi.
Sachant que ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quand même relativement rapide, parce qu'il y a plein d'autres endroits où les gens tentent de faire des procès pour expulsion illégale et que ces procès s'étalent sur des années et des années et qu'on n'en voit jamais le bout. Quoi. Même quand il y a des grosses violences avec des jours d'ITT en jeu et tout ça, généralement, ils n'aiment pas du tout traiter ce genre de dossier. Quoi.
Ouais, c'est juste contre-attaque politique, en fait. Ouais. Parce qu'on a vu comment c'était des bâtiments, par exemple. Un de ces trois bâtiments, c'est une ancienne fabrique, c'est une usine qui s'était abandonnée pendant 30 ans, complètement pourrie. Et les gens qui investissent son énergie dedans pour la reconstruire, refaire vivable, créer une espèce de centre social. Moi, je me doute qu'on processe ça super vite pour cette maison, que ça serve à quelque chose, autre que juste donner un coup politique.
Toi, tu penses qu'elle ne va pas servir, cette maison, c'est ça que tu dis ?
Non, je veux dire que le processus pour cette maison, pour réaction pour expulser, pour expulser cette maison et les autres maisons qui sont vides, comme la 10e part de Calais, je pense que ça c'est juste un choix politique. Et d'autres.
En tout cas, effectivement, l'ouverture avait l'air d'assez bien résonner dans la ville. Enfin, les ouvertures de maisons avaient l'air d'assez bien résonner dans la ville. C'était assez fou de voir aussi comment réagissaient les voisins, notamment à côté de cette ancienne dentellerie, là, où il y avait un voisin qui, justement, disait plutôt c'est assez chouette que cette maison s'ouvre là. Enfin, en tout cas, effectivement, ça fait des années et des années qu'on voit des migrants traîner dans les rues. Et j'espère que les gens de Second-Calais, là, qui caillassaient les maisons, vont pas se repointer là. C'est vraiment une grosse connerie, enfin, ce genre de truc. Et j'ai l'impression que ce qu'ont fait les gens de Second-Calais à Coulogne, là, ça a permis qu'apparaissent bien plus franchement ces tensions, les problématiques, que voilà, que les choses soient bien plus palpables, quoi. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, en fait, je pense que ça a complètement participé au fait que les ouvertures se passent et se passent bien. Enfin, je sais pas si on peut dire ça de leur action, quoi. Si c'est pas du tout grâce à eux que ça s'est bien passé, mais ce que je veux dire, c'est que ça a fortement marqué les esprits. Quand il y avait dans les réunions publiques, il y avait des gens qui disaient, moi j'ai vu ça, moi j'étais à Coulogne, moi je suis une voisine, maintenant les gens m'insultent tous parce que je suis allé leur dire que c'était des gros cons qui balancent des caillasses contre les gens dans la maison là, et tous les gens m'insultent tous les jours dans la rue, et moi j'ai vu ça, je suis complètement horrifié. Et voilà, il y avait des espèces de réactions comme ça un peu franches, de dire bon, ah, effectivement, en fait, ça craint ce qui se passe là, et voilà, et le voisin de la dentellerie était assez content que ça s'ouvre.
Et puis plus j'ai l'impression, plus on avance dans ces histoires avec Second-Calais, plus le voile se soulève et on voit les liens qu'il y a avec toute une frange de l'extrême droite radicale en France. Un des exemples les plus flagrants, c'est que là, Second-Calais, ils appellent à une nouvelle manifestation le 13 avril au centre-ville de Calais. Sur leur affiche, il y a marqué immigration de masse, insécurité, contre les pro-migrants, contre les journalistes vendus. Et en gros, en rouge, il y a avec la participation de Alexandre Gabriac. Et là, on ne peut pas faire plus facho, institutionnalisé que ça en France. Parce que Alexandre Gabriac, c'est un facho connu de Lyon, quoi. Il est conseiller régional. Il est assez jeune, il a 22-23 ans, je crois.
Ouais, il a 23 ans, ouais. Et c'est le plus jeune député de France.
Le plus jeune député de France. Il a été viré du FN pour un salut nazi.
Ouais, elle a justifié comme ça Marine Le Pen, mais en fait, c'est parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle lui faisait des avertissements sur des comportements et des phrases trop
vénères.
Trop vénères, quoi.
Ouais. Et évidemment, ça en vient au fait que c'était le fondateur et le chef des jeunesses nationalistes. Et ils ont été dans les médias il n'y a pas longtemps pour un truc assez craignos, voire horrible. C'est que, en fait, c'est un des organes avec l'Ordre française qui a été dissolu par le gouvernement français après la mort de Clément Méric. L'année dernière, Clément Méric était un militant antifasciste qui s'est fait tabasser dans les rues de Paris. Par une bande de skins, quoi. Et c'était un de leurs chefs. Donc voilà, le lien ne peut pas être plus clair. Ils invitent à leur manifestation un des nouveaux pontes un peu de cette extrême droite radicale qui double le FN par la droite, en fait, quoi.
Et ouais, pour l'appel à manif, là, il y a aussi les gens du coup, qui s'organisent contre eux, là, qui ont appelé à soutien, qu'on relaie quand même rapidement, pour notamment défendre un peu les maisons où ils ont des inquiétudes, évidemment, que le rassemblement se termine par différentes actions violentes envers les lieux là ouverts. Donc il y a un appel qui tourne aussi pour les groupes antifascistes à venir un peu défendre les lieux là-bas.
Quand c'est notamment déjà passé à 1er mars aussi, il y avait un rassemblement à rapport à ce qui se passait à Cologne et un peu pour finir la semaine de l'occupation, des actions des occupations de nouveaux lieux. Il y avait aussi un rassemblement à Calais, en 1er mars, un peu antifasciste.
Oui, c'est ça. Il y a un appel à venir tout le week-end. Ils insistaient assez fortement sur le fait de rester pendant. Parce que, en tout cas, ceux qui vont venir d'autres lieux pour ce rassemblement de Sauvons-Calais vont potentiellement rester du vendredi au lundi. Et du coup, c'est possible de venir rester là-bas aussi pour surveiller les lieux et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque, quoi. Sinon, un lien avec l'actualité plus générale en France, mais toujours dans cette idée de fascisme rampant qui renaît en France. Et je pense aussi un lien très fort avec Sauvons-Calais, qui doivent être une sorte de composante de ce qu'on va parler maintenant. C'est que le 5 avril, qui arrive là, en France, c'est toute une bande de nouveaux fachos qui veulent faire ce qui s'est passé, c'était quand ? En janvier dernier ? Ouais. Jour de colère.
C'est 5 et 6, non ?
C'est le 5 et le 6,
ouais,
en France.
Le 5 et 6 avril, oui.
Ouais.
Qui était censé être un jour de colère contre le gouvernement voilà. Hollande. Et en fait, quand on regarde l'état de la manifestation qu'il y a eu à Paris, c'est vraiment toute la frange de fachos, justement ceux qui doublent le FN par la droite, plus le FN, plus d'autres.
Et jour de colère du 5 et 6, en fait, c'est un jour de colère décentralisé, parce qu'ils ont fait leur première édition à Paris. Et là, leur idée, c'était de faire un jour de colère dans diverses villes en France, enfin, dans plein de villes en France. Et il va y avoir un jour de colère à Dijon, donc le 5 avril. Et il y a l'idée qui a été émise par diverses personnes d'organiser...
Différents collectifs.
Différents collectifs, effectivement. D'organiser une contre-manif, mais pas que, aussi. Hein, une façon d'occuper la ville, de faire la fête et de vivre une colère différente de la leur et d'assumer un rapport de force sur la définition de la colère et la manifestation de la colère.
Mais surtout pour laisser savoir qu'il n'y a pas d'espace pour la fasciste en Dijon, dans la ville de Dijon.
Aussi, ouais, carrément. Et du coup, il y a un rassemblement à midi, place Wilson, le 5 avril, samedi 5 avril. Voilà. Et il y a un blog qui répertorie tout ça, tous les textes, toutes les affiches, toutes les invitations, tous les événements, etc. Et qui s'appelle 5avril.noblogs.org.
Ils veulent faire un jour de colère. Les gens, je crois, qui s'organisent autour proposent plutôt un jour de fête avec, il y aura aussi des concerts, des ateliers, du théâtre, et puis des petites activités partout pour montrer que la rue, elle est à nous, elle n'est pas à eux, quoi.
Mais c'est aussi quand même une façon d'affirmer une certaine colère, quoi.
Ah ouais, on a
nous aussi
une colère.
Effectivement. Ouais, c'est plutôt, on a plus la rage, je crois, que la colère.
Sinon, le 9 et 10 mai, aux Tanneries, il y aura un festival de hip-hop en soutien à Calais pour soutenir la lutte là-bas, que ce soit dans la gestion des frais quotidiens pour soutenir les migrants ou pour tenir les maisons, les frais de justice, etc. Pour avoir plus d'infos, il faut aller sur le blog Hip-Hop aux Tannes, hip-hop. O comme O et tan, T-A-N, .noblogs.org. Il y a plusieurs groupes, il y a notamment Lubna de Dijon, Billy Breloque, Bokale Baba, Cannibal Zona, enfin il y a 8 groupes à peu près, un truc comme ça. Et puis la prog n'est pas totalement bouclée, mais normalement il y a des news sur le site.
Des nouvelles sont des Calais. Disons que la police a changé un peu de tactique, ils viennent pas directement à le campement des migrants, ils viennent pas dans la manière violente où sont visibles, où les flics sont visibles avec son actuation, du coup se cachent plutôt au niveau des parkings et des parkings, des arrêts des autoroutes pour chasser des migrants.
Tu penses que c'est lié à quoi, ça? C'est un changement de stratégie de l'État ou...
Ouais, c'est possible, je ne sais pas.
Ils veulent moins que ce soit moins visible pour...
Moi, je pense que ça sert à ça. Là-bas, on peut attaquer avec son impunité. Et comme dans la ville, il y a déjà pas mal de gens qui réagissent grâce à Réseau No Border et des gens qui sont déjà un peu plus conscients de ce qui se passe au niveau des conditions de vivre. Il y a plus de gens qui s'occupent de ce qui se passe à des campements migrants. Mmh. Là-bas, un peu dehors, ça peut passer avec impunité.
Parce qu'on ne l'a pas tant évoqué, mais c'est vrai qu'on a parlé un peu de l'ambiance dans la ville à Calais, là, et tous les gens qui y passent, mais ça déborde aussi complètement Calais, en fait. Toutes les aires d'autoroute avant, il y a des gens qui essaient de s'accrocher au camion pour passer la frontière comme ça. Il y a des camps aussi en dehors de la ville, le long des principaux axes de marchandises, là, et c'est vrai que c'est pas que dans Calais, ça serait, et même des petits villages autour où il y a des campements qui ont été montés par des villes un peu plus sensibles peut-être à ce qui se passe, quoi, mais c'est pas juste Calais, quoi, c'est toute la région presque, quoi.
Partiel, mais comment on avait ressenti la vie, comment on avait vécu aussi avec les gens qui étaient là-bas à Calais, enfin les gens qui sont les migrants, les sans-papiers de Calais, notamment dans le camp des Érythréens qui se trouve juste sous la mairie, c'est-à-dire à deux pas de la mairie, j'entends quoi, mais sur un quai d'un des canals de Calais. Et c'est assez fou parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle une jungle, donc voilà, basiquement. Et. Cette jungle-là, c'est pour le camp des Érythréens une trentaine, une cinquantaine de tentes. Avec voilà, des tentes qui sont recouvertes de bâches noires pour pas prendre l'humidité, enfin, l'eau, etc. Et avec des gens qui font des feux en permanence. Enfin, y a une espèce de vie assez particulière qui se passe dans ces camps-là.
Bah moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on a vu un peu la... Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné un espèce d'aspect de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et de même comment tout s'organiser au quotidien. Par exemple, que, en fait, y a des solidarités qui se font avec des gens qui ont des plans pour leur ramener des palettes, des gens qui leur ramènent du bois pour qu'ils puissent faire des feux en permanence parce qu'ils se les gèlent, quoi, et puis en plus pour faire à bouffer et tout ça. Et du coup, quand en fait, on voit que au-delà des No Borders, bah, y a une solidarité quand même de certains Calaisiens et que voilà. Et puis que c'était là, il y avait une personne qui faisait des pizzas et du pain, donc on a aidé à faire de la soupe aussi, parce qu'il y a des repas qui sont distribués tous les soirs à un endroit, mais le midi, il n'y a pas de repas qui sont pris en charge par des assos. Alors du coup, c'est des gens qui viennent et qui proposent à bouffer quand ils peuvent, quoi.
Mais là, c'était assez chouette parce qu'effectivement, il y avait ce mec-là qui avait son camion et une espèce de petite cabane là où il faisait du pain, où il y avait un four à pain, etc. Et moi, j'ai trouvé que ça posait quelque chose d'assez sympathique, quoi, sur ce quai, parce que voilà, il y avait ce mec qui faisait du pain en permanence avec les migrants, avec les sans-papes, et des fois, il faisait des pizzas, effectivement, comme tu dis, il faisait des soupes, mais il y avait quasi une espèce de petite organisation, je sais pas si on. Bah, voilà, d'un. Enfin, ouais, ça donnait effectivement cet idée-là un peu de.
Et puis, oui,
petit bourg, et c'était pas dégueu, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, ça faisait vraiment pas effectivement des jungles comme peut-être plus on a pu en voir à la télé, ou je sais pas comment dire, on a des espèces de trucs affreux où les gens sont dans la forêt, ils sont gazés en permanence par les flics qui viennent les virer, etc. Enfin, voilà, là, il était pas vraiment question de ça, quoi.
Ouais, et puis la bouffe, c'est aussi un peu le nerf de la guerre, clairement. Enfin, là, notamment, il y a ce moment quand même assez particulier, j'ai l'impression, dans la ville de Calais, et notamment. Plus particulièrement pour les migrants, qui est la distribution de bouffe, là, qui a lieu, je crois, à 18h tous les jours, qui est assurée par des associations de là-bas, quoi. Où, en fait, ben, ouais, c'est aussi un moment de tension, clairement, parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui arrivent, et c'est aussi le moment où il peut y avoir, je sais pas, des règlements de compte, des bastons, des trucs qui éclatent, quoi, de tension, quoi.
Des flics aussi.
Et ouais, en fait, tout ça, c'est. Voilà, c'était un peu là. C'est clairement ce moment-là où il y a 3-4 patrouilles de flics qui sont autour et qui permet aussi de contrôler les allées et venues, compter, ouais, tout ça, quoi.
Et la vie de cette espèce de petit village, là, sur le quai des Érythréens, là, elle s'organise entre la nuit où les gens essayent de passer, ouais, et la journée où les gens plutôt dorment, enfin, en tout cas, se reposent, prennent du temps, voilà, pour grignoter des trucs, discuter entre eux. Et c'est assez taré d'arriver là-bas la nuit, parce qu'effectivement, t'as une espèce de vigie de gens, là, qui font du feu, là, qui ont peut-être essayé de passer la nuit d'avant, ou qui se reposent, ou comment, on sait pas très bien. En tout cas, il y a des gens qui sont là, et en permanence, il y a des personnes qui essayent de passer, et donc, la journée, le matin, des histoires de gens qui racontent que, ah bah non, aujourd'hui, ils sont pas passés, ou qui tentent des choses, qui tentent de passer. Enfin, il y a des espèces d'histoires comme ça.
Et puis, du coup, avec des trucs de technique et un des soirs, il y avait les pompiers qui étaient venus parce que y a quelqu'un qui s'est pété les jambes en essayant de passer. Enfin, ouais, c'est là qu'on se rend compte aussi de la difficulté qu'ils ont à passer, et des risques sanitaires et physiques qu'ils prennent.
Ouais, je crois qu'il y a eu 4 morts la semaine dernière, il y a 10 jours là, qui ont essayé de passer. Et après, ben, malgré tout ça, en fait, il y a aussi quand même des fois les coups de fil au petit matin des potes qui sont en France et des gens qui ont réussi à passer et qui appellent et qui disent « bon, moi, je suis de l'autre côté ». Et je sais pas quoi, les rires et les joies des partagés, en fait, partagés par la Manche, quoi, par la mer. Et voilà, quoi, c'est aussi quand même ces moments-là qui sont chouettes à voir et à vivre, quoi. Et
toi, Bernard, tu veux pas dire des trucs sur ce camp? J'ai l'impression que tu avais vécu des trucs marrants.
Si, ce que je peux dire qu'on a rencontré des chouettes gens en faisant des récups, notamment, que en fait finalement il y a quand même des gens qui se bougent régulièrement pour amener, puis voilà, quoi, il y a des gens qui te filent du bois raid de neuf pour construire, pour barricader, voilà, quoi. Quand tu cherches des choses, tu les trouves assez rapidement, finalement, parce que les gens ont quand même une espèce de réseau, des contacts. Il y a Emmanuel qui file plein de trucs, Puis il y a aussi, moi je me rappelle parler des gens qui se blessent, et en effet il y a des gens qui se blessent très très régulièrement en passant, en tentant de passer. Et du coup on avait trouvé deux tentes assez énormes qui ont été directement non pas prises pour que des gens se les approprient, mais ils ont décidé de faire une cuisine et de faire une tente médic sur le camp, et j'ai trouvé ça assez chouette.
effectivement, c'était un camp où les gens, ils étaient assez classe entre eux, quoi. En tout cas, ils partageaient des choses, ils s'organisaient entre eux, clairement, pour vivre ensemble ce truc-là, et pas chacun pour sa gueule. Alors que...
Et puis, c'était assez dingue, parce qu'ils étaient même des fois gênés par des trucs, il fallait aller leur proposer clairement... Et c'était dans des rapports où vraiment ils faisaient attention à ce que tout le monde ait bouffé, enfin être sûr qu'ils pouvaient prendre un deuxième verre de soupe, être sûr qu'il y en aurait pour tout le monde et tout. C'était vraiment classe, quoi.
Ouais. On s'est rendu compte qu'une des spécialités kenyanes,
soudanaise,
on l'avait en commun avec la Bretagne, la crêpe.
Sachant qu'en plus, il n'y a personne à part... Enfin, c'est rare des gens qui font des crêpes, mais les Soudanais font des crêpes. Du coup, on a fait des crêpes avec des Soudanais, c'était vraiment chouette.
Et pour revenir sur ces solidarités là, du mec qui a porté du bois pour faire du feu ou pour d'autres choses, là, en fait, c'est vrai que d'aller là-bas, ça démystifie quand même pas mal ce qu'on peut penser de cette ville, ce qu'on peut penser de cet endroit, de la conflictualité qui s'y joue, etc. Parce que nous, en allant là-bas, on s'est dit, putain, en fait, on va... à la fois se faire casser la gueule par les fachos hyper violemment, à la fois se faire contrôler en permanence par les flics, se faire emmerder, à la fois avoir en face de nous des gens qui jamais vont nous filer un coup de main, une espèce de fachos, une ambiance dans la ville hyper naze et tout. Et en fait, bon, bah, au final, les fachos, ils n'étaient pas tant là. Les flics, les flics, ils nous aient pas chez nous. Ben, évidemment, on est blanc, quoi. C'est facile, mais je veux dire, on s'est pas fait contrôler en permanence, on s'est pas fait emmerder, même quand on dormait sur le camp des Érythréens, là. Enfin, et je pense qu'il faut revoir comment on pense cette ville-là, parce qu'en fait, c'est pas du tout une ville où tout est sclérosé et où il n'y a aucune possibilité. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'y passer et qu'il y a beaucoup de possibilités de faire autre chose que juste se faire taper par les flics, etc. Bon, après, c'était peut-être pas le cas avant, hein. Je crois qu'il y a, peut-être ne serait-ce que 2 ans, c'était complètement, ou 2 ou 3 ans, c'était complètement la folie là-bas, mais, enfin, c'était affreux, mais voilà, là, c'est moins le cas, j'ai l'impression.
Puis là, j'ai eu des nouvelles d'une personne qui habite à Calais, qui est New Border, et qui m'a envoyé un mail pour me dire que, en fait, cette semaine où il y a eu les ouvertures, etc., ça avait lancé une assez bonne dynamique, où, en fait, il y avait pas mal de monde qui venait à Calais pour filer des coups de main, plus qu'en temps normal. Et en fait, ça c'est assez important aussi parce qu'il y a quand même très peu de Calaisiens et que ça vit essentiellement grâce à des gens qui viennent passer un peu de temps là-bas. Et en fait, c'est vrai que finalement, on nous avait dit qu'il y avait plein de flics, etc. Et certes, ils nous ont vus, je pense qu'ils faisaient attention un peu au look des gens pour voir si c'était des no-borders ou pas. Mais en fait, c'est quand même relativement tranquille. On aura cela.
Oui, justement, il y a cet argument des autorités ou de Natacha qui disait, bon, c'est en fait les gens qui viennent d'extérieur pour faire les choses qui sont faites pas à leur maison, nanana, nanana. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'ils ont fait ça à leur maison aussi. Et le lien de la solidarité qui est internationale, c'est la réponse à un problème qui est international, en fait. Du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens d'extérieur qui viennent d'aider dans la situation complètement merdique qui se passe à Calais. Il ne se passe pas seulement à Calais, il y a des autres endroits où les gens qui viennent de partout pour essayer de se combattre contre cette situation qui s'est créée pour le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Je trouve ça assez classe d'avoir ce genre de réponse. Et bah, du coup, je pense que si quelqu'un voulait venir là-bas, n'hésite pas. Prendre quelques couvertures, prendre quelques matos, deux vélos pourris et aller voir vous-même.
Et puis tu reparlais de Natacha, on lui souhaite quand même une belle gamelle là ce soir. Je crois que c'est le deuxième tour ce soir.
Voilà, plante-toi Natacha et fasciste, plantez-vous entre vous. Quoi.
C'est clair. C'était Terre en Vague. A plus, dans 2 semaines, la semaine prochaine, c'est les copains de Vacam en réunion. Bon week-end, ciao.
Ciao. Salut.